amis, frères et sœurs, voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie.
Bienvenue à vous tous ici ce matin. Bienvenue à vous aussi particulièrement qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres ce matin dans ce lieu. Nous avons une pensée particulière ce matin pour ceux et celles qui subissent les conséquences de cette pandémie toujours actuelle. Nous entrons dans une semaine pascale, une semaine qui nous amène vers Pâques, vers une résurrection, et nous allons la vivre tous ensemble et à certains moments avec l'Église du foyer de l'âme. Nous sommes en communion dans ce chemin. Et nous vous invitons tous à suivre ce chemin ensemble avec le Christ.
Prions ensemble. Voilà, Seigneur, c'est fait. Tu as franchi la porte. Tu as pris ta décision. Tu viens d'entrer dans la semaine que le monde des croyants n'oubliera pas de sitôt. Une semaine d'amour, une semaine de peur, une semaine de fidélité. Aujourd'hui, c'est ton entrée en fête dans cette belle ville de Jérusalem. Demain, ce sera le lavement des pieds de tes disciples, le partage du dernier repas au seuil de la nuit. Puis ce sera l'éclatement de ton corps sur la colline. Et encore un peu plus tard, ce sera le relèvement dans la vie et la victoire sur la mort. Ô Seigneur, comment pourrions-nous te regarder dans ta passion sans devenir à ton image des passionnés pour faire vivre la terre? Amen. Réunissons-nous dans la communion fraternelle en prenant le premier chant du livret inséré au début du psautier français. Je vous invite à vous lever.
Louons le Seigneur. Portes, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Trop basses, trop étroites, les portes de Jérusalem. Pour l'entrée de ce roi, il les faudrait plus hautes. Pour la gloire de ce roi, il les faudrait plus larges. Portes, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Le voici, il vient, sur un petit âne. Déjà, la porte est trop large pour lui, déjà, la porte est trop haute pour l'âne. Ô mystère du roi serviteur, ô grandeur du Christ de Dieu, sur l'âne du pauvre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je vous invite à poursuivre notre prière, notre louange avec le psaume 47, les strophes 1, 2 et 3 dans le psautier français.
Prenez place. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Vous avez entendu qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui nous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes.
Nous nous remettons ensemble sous le regard de notre Dieu. Seigneur, nous nous présentons devant toi, dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste, heureux de te remettre les actions et les pensées que ton Fils nous a inspirées, conscient de nos erreurs, de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis, et le bien que nous n'avons pas fait autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière. Que ta voix rende notre cœur simple et confiant pour une véritable repentance. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous de vivre ce pardon quotidiennement. Plein d'espérance, nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Pour recevoir le pardon que le Seigneur nous accorde toujours et en tout lieu, chaque fois que nous nous tournons vers lui, je vous invite à vous lever. Le grain de sénevé devient le plus grand arbre du royaume. Un morceau de pain devient nourriture de foule. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un verre d'eau devient le plus grand critère d'amour. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Un prophète assis sur un âne devient un crucifié dont la mort donne sens à la vie de toutes les nations. C'est lui qui pardonne notre abandon, nos trahisons et nos médiocrités. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À lui soit la gloire.
Confessons notre foi avec un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, nous lirons les versets situés entre les versets 12 et 25. Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël !» Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. » Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts lui rendait témoignage. C'était bien, en effet, parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda, de Galilée, et ils lui firent cette demande, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes, « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. » Dans le cantique Louange et prière, nous prendrons maintenant le numéro 115. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prions. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. Et c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Amis, frères et sœurs, le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem marque, pour tous les chrétiens occidentaux du moins, leur entrée dans ce qu'il est convenu d'appeler la Semaine Sainte. Un repère liturgique allant du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Et cette année, nous choisissons de vivre cette semaine particulière avec la lecture de l'évangile de Jean. Cette entrée de Jésus à Jérusalem, ou la fête des Rameaux, en souvenir des branches coupées aux arbres et agitées par la foule en guise de bienvenue, est un épisode commun aux quatre évangiles. Même si ce sont les récits synoptiques de Matthieu, Marc et Luc qui nous sont sans doute les plus familiers. Et dans les trois premiers évangiles, c'est la première et unique entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Mais dans l'évangile de Jean, il en est autrement, puisque c'est la troisième fois que Jésus vient à Jérusalem. En effet, on trouve Jésus dans cette ville au tout début de l'évangile, dès le chapitre 2, juste après le récit des noces de Cana, avec ce moment mémorable où Jésus chasse les vendeurs du temple, et un peu plus loin, au chapitre 5, lorsque Jésus guérit un paralytique à la piscine de Bethsaida, provoquant là aussi un certain trouble, puisque cette guérison a lieu le jour du sabbat. Ce troisième séjour à Jérusalem, raconté par Jean, témoigne peut-être encore plus que dans les autres évangiles de ce quiproquo, de cette ambiguïté que soulève l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans notre récit, c'est la foule qui prend l'initiative de se précipiter à la rencontre de Jésus. Elle veut lui faire un accueil explicitement royal. Elle va se rendre à sa rencontre de la même façon qu'on accueille un souverain s'approchant d'une ville. Et l'ovation de la foule est symbolisée dans le récit par les palmes qu'elle porte et non des branches arrachées aux arbres sur le parcours. Alors, comme il n'y avait pas vraiment de palmiers à Jérusalem, il est permis de supposer que la foule s'est procuré ses palmes à l'avance pour une autre fête, par exemple celle de Soukhot, ou la fête des tentes ou des tabernacles, palmes qu'elle a certainement conservées pour s'en servir à une autre occasion, et il se trouve que c'est pour accueillir Jésus. Alors le palmier se dit Tamar en hébreu, ou Phoenix en grec, et il occupe une place centrale dans la spiritualité juive. C'est un arbre qualifié de sacré, lié à la notion de justice. L'homme juste est comparé à un palmier dès les premiers versets du psaume 1. Le tronc droit et haut du palmier sert de comparaison pour la croissance du juste selon le psaume 92. Dans le livre des juges, Déborah, la seule femme juge, rendait la justice sous un palmier. Tamar, c'est aussi le nom d'une femme du livre de la Genèse qui, par une ruse assez risquée, il faut le dire, obligea son beau-père à lui rendre publiquement justice tout en préservant sa dignité et sa descendance. Les palmes étaient des motifs de décoration du temple du roi Salomon. Les palmes servaient aussi à accueillir les entrées triomphales des souverains, comme on le trouve dans le livre des Maccabées. Et si la palme reste l'emblème décoratif du triomphe et de la gloire, dans le langage religieux, elle est également le lot des martyrs, comme on peut le lire dans le livre de l'Apocalypse. Alors ces détails permettent de mieux comprendre le véritable quiproquo qui se joue à cet instant précis. Jésus est accueilli comme un libérateur national, comme le futur roi d'Israël au sens politique du terme. Et la foule est certaine que c'est lui qui va rendre la justice, la vraie, que la multitude attend pour elle-même. Et si elle accueille Jésus comme un libérateur politique, cela va encore plus loin qu'on ne l'imagine. Elle voit en lui un faiseur de miracles qui dépasse son attente, parce que la foule est aveuglée par ce miracle de Lazare qui vient de sortir de son tombeau, tout comme quelque temps auparavant elle a été subjuguée par un autre miracle, celui de la multiplication des pains. Ce moment particulier où la foule voulait déjà enlever Jésus pour le faire roi. Son attente est telle qu'elle ne remarque plus que Jésus avance assis sur un ânon. Elle ne fait plus le lien avec la prophétie de Zacharie que l'évangéliste Jean cite de façon plus simplifiée, mais à la manière des autres évangélistes. Alors pour le moment, le texte nous indique que les disciples ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Mais Jésus est là, qui ne se dérobe plus à la foule comme à l'accoutumée. Quelque chose est en train de changer, mais quoi exactement? Ils comprendront après être passés par une réalité qu'ils ne soupçonnent pas encore. Ce qui motive la foule à accueillir Jésus de cette façon, c'est le signe de Lazare de Béthanie. Mais l'évangéliste Jean a pris soin de faire suivre ce signe par le geste du parfum répandu sur les pieds de Jésus par Marie, la sœur de Lazare, reliant ce geste d'onction à la mort prochaine de Jésus. Et c'est certainement là que se situe le cœur de notre récit. Jésus n'est pas là pour épater la foule, il n'est pas là pour faire du prodigieux. Le quiproquo se situe au niveau de la vie éternelle. La foule espère une vie terrestre qui ne finit jamais à la manière de Lazare, peut-être, alors que Jésus parle d'une vie éternelle liée à un accomplissement de soi. C'est le don de soi qui fait office de vie éternelle. Et ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est concerné, mais bien tout homme, tout le monde le suivra. On ne peut rien faire contre cela, disent les pharisiens. Et cette ouverture est symbolisée dans notre texte par la présence des Grecs qui sont à Jérusalem et qui demandent à voir Jésus. Il représente cette ouverture à l'universel, un élargissement des frontières, tant géographiques que religieuses, rappelant ainsi la totalité de l'oracle prophétique de Zacharie qui annonçait l'arrivée d'un Messie assis sur un ânon qui brise les armes de guerre, qui étend sa domination d'une nation à l'autre. Mais de quel Messie sommes-nous en train de parler ? Car ce n'est pas assis sur un ânon qu'on étend une domination sur l'ensemble du monde. De quelle manière ce Messie peut-il s'y prendre ? Si ce n'est par la conversion des cœurs à un amour, à une humilité allant jusqu'au don de soi. C'est alors que l'évangile de Jean prend un nouveau tournant et bascule dans une autre image. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain ne meurt, alors indépendamment du titre d'un livre d'André Gide qui raconte sa biographie, cette image renvoie l'auditeur ou le lecteur que nous sommes à un grand nombre de paraboles dont le thème est classique. L'enfouissement de la graine semée en terre était considéré par les anciens comme une mort, et le surgissement d'une plante nouvelle comme une sorte de résurrection. C'est d'ailleurs cette comparaison que l'apôtre Paul gardera presque mot à mot pour évoquer la résurrection à l'église de Corinthe. Dans les autres évangiles, Jésus utilise cette comparaison du grain de blé à propos du royaume. Mais alors que dans la parabole du semeur, le grain, c'est la parole de Dieu, dans le contexte de l'évangile de Jean, le grain est identifié au Christ lui-même. La Pâque juive est proche, et avec elle la mort de Jésus. Et Jésus traduit le « il faut » de sa passion par la motivation du fruit qu'il va porter. Le grain qui meurt ne reste pas seul, il porte du fruit en abondance. Et cette multiplication promise est la description anticipée de la glorification du Christ, si chère à l'évangéliste Jean. Alors pour nous qui savons comment l'histoire se termine, puis se continue, nous comprenons que Jésus évoque par ses mots sa propre mort. Et c'est une façon de dire que sa mort sera féconde. Mais comment une mort peut-elle être féconde ? En recherchant le sens de la vie qu'elle donne ou donnera le moment venu à celles et ceux qui n'en resteront pas là, et qui feront la démarche de comprendre ce geste, je dirais même indépendamment de la résurrection. Et sa vie qu'il donne pour le monde, pour la multitude et non aux membres d'un club privilégié, se fait par le passage irréductible de sa mort qui fait aussi surgir la vie pour d'autres, à commencer par un certain centurion qui reconnaîtra en cet homme qui meurt sur la croix le Fils de Dieu. En Christ, donnant sa vie pour que les hommes la reçoivent en abondance,
Dieu révèle d'une manière inattendue sa présence au monde. Il ouvre le cœur des hommes à un trésor unique, celui de l'amour sans condition. Et c'est alors que chacun peut comprendre la portée des paroles et des gestes de Jésus pendant son ministère terrestre, quand il guérissait, quand il rassasiait les affamés, qu'il donnait à boire à celles qui avaient soif, ou qu'il relevait encore celles qui attendaient d'être lapidées, ou quand vers l'ultime fin, il bénira celui qui le maudira, quand il pardonnera à celui qui l'insultera et même le mettront à mort. Jésus a fondé sur l'amour une société nouvelle, juste pour permettre aux hommes que leur vie soit durable et qu'elle porte du fruit. Nous sommes toujours au bénéfice de ce don qui appelle à un autre don. Au jour des rameaux d'autrefois, la foule attendait de suivre un Messie en croyant qu'il allait tout révolutionner pour leur propre profit et qu'il satisferait leur petit monde à eux. Mais lui venait annoncer un royaume qui n'était pas de ce monde, mais qui pourtant pourrait s'étendre aux dimensions de ce monde, pour peu qu'on lui abandonne en toute confiance notre propre personne. Jésus parlait et parle encore d'une vie authentique qui suppose un renoncement, oui, un renoncement à un égoïsme, un renoncement à un orgueil, à un esprit de domination, un renoncement aux préjugés, selon la formule que j'affectionne tout particulièrement. Tu seras aimé le jour où tu pourras dire ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Suivre le Christ, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ni plus ni moins, c'est abandonner quelque chose de soi-même pour accueillir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est non seulement la personne du Christ Jésus, mais c'est aussi la personne que je deviens jour après jour quand je découvre qui je suis dans le sens du verbe être. C'est donc moi-même, ou chacun d'entre nous, rencontré, transformé, renouvelé par sa présence, son amour, sa grâce et son pardon. C'est moi-même ou chacun d'entre nous dans la lumière d'une relation nouvelle avec lui et avec les autres. C'est moi que je découvre, essayant à mon tour d'ouvrir le chemin de celles et ceux que je rencontre. C'est chacun d'entre nous devenant à notre tour un homme ou une femme de terrain, engagé, travaillant sans relâche à l'annonce de l'Évangile, là où d'autres sont en attente d'une parole qui libère, là où d'autres sont en souffrance, en esclavage de toutes sortes, en solitude de tout genre, là où d'autres attendent un geste, une parole qui relève, qui soulage, ou un regard qui les rendent à la vie. Parce que, comme l'écrivait Albert Schweitzer, à certains moments de notre vie, notre propre lumière s'éteint et se rallume par l'étincelle d'une autre personne. Chacun de nous a des raisons d'éprouver une profonde gratitude pour ceux qui ont rallumé la flamme en nous. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, au numéro 117, nous poursuivons notre louange pour ce dimanche des rameaux. Cantique 117, strophes 1, 2 et 3.
Bonjour à tous. Merci Gérard. Au nom du Conseil presbytéral, merci d'être là, de partager ce culte des rameaux avec nous. Merci à Sarah, vous avez reconnu Sarah, on ne l'a pas citée en début de culte, mais c'est Sarah qui nous accompagne aujourd'hui. Merci Agnès, Béatrice, encore une fois, de nous préparer ce culte. Ça demande une semaine de travail, un culte. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une semaine de travail. Pour célébrer, donc, nous rentrons sur le chemin de Pâques. Pour célébrer cette semaine sainte, un programme riche. Mardi midi, partage biblique, 12h30 ici avec Béatrice. Jeudi, 12h30 avec Agnès. Ensuite, et à nouveau avec une grande joie, nous organisons un échange de chairs avec le foyer de l'âme, avec nos amis du foyer de l'âme. Jeudi à 16h, la lecture sainte du jeudi saint aura lieu au foyer de l'âme. À 16h, il y aura un ensemble éphémère musical et de plus de 30 musiciens, ce qui veut dire, j'ai eu mon homologue du foyer de l'âme tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il faut s'inscrire impérativement pour assister jeudi à cette lecture. Jeudi au foyer de l'âme, vous pouvez vous inscrire sur contact@foyerdelame.fr. Elle ne sera pas diffusée en direct. Et elle ne sera pas filmée. Donc si vous voulez y assister, il faut venir jeudi à 16h et vous inscrire à partir de ce soir au foyer de l'âme, contact@foyerdelame.fr. Béatrice nous aidera dans la méditation au foyer de l'âme, donc ce jeudi à 16h. Et vendredi, la lecture du Vendredi Saint aura lieu ici, à l'Oratoire du Louvre, avec cette fois-ci le pasteur Dominique Hernandez, qui nous offrira la méditation. Et nous aurons la joie d'avoir aussi le chœur de l'oratoire qui sera là. Et Sarah nous accompagnera. Donc jeudi 16h, le foyer de l'âme sur inscription. Vendredi 16h, ici, avec le pasteur du foyer de l'âme et nos musiciens de l'oratoire. Dimanche, culte de Pâques, co-présidé par nos deux pasteurs, Agnès Encher, David Cassan, notre co-titulaire organiste à l'orgue, et également à nouveau le chœur de l'oratoire. Donc c'est vraiment une semaine sainte que nous voulons en musique. Et vraiment, venez nombreux ici, également au foyer de l'âme, mais au foyer de l'âme sur inscription. Dimanche suivant, celui de Pâques, ça sera notre assemblée générale. Notre secrétaire Isabelle a envoyé les convocations vendredi par courrier aux membres qui n'ont pas les emails, qui n'ont pas d'email, et par email à ceux qui en ont. Nous avons quelques exemplaires du dossier papier. Si vous le souhaitez, les conseillers sont là pour vous les remettre. Enfin, excusez-moi, les annonces sont longues. Nous aurons aussi l'association de l'entraide qui fera son assemblée générale le 11 avril. Fleurette est là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez sur l'association de l'entraide. Également, pour mémoire, au fond du temple ou à l'entrée du temple au choix, vous avez systématiquement les prédications de nos pasteurs en version papier. Nous vous mettons également les résumés de nos séances du conseil presbytéral. Donc, nous nous sommes rencontrés mardi dernier pour donner, j'allais dire, les dernières retouches à la convocation de l'Assemblée générale que vous avez reçue. Nous sommes également rencontrés au mois de février sur un certain nombre d'initiatives. Toutes ces initiatives sont en résumé dans les résumés du conseil presbytéral que vous trouverez à l'entrée. Et dans le cadre de ces initiatives, il y a une surprise du chef qui va sortir aujourd'hui à 12h sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Puisque, souvenez-vous, il y a un mois, nous disions aux paroissiens, ici même, aidez-nous si nous sommes reconfinés à trouver des nouvelles initiatives pour garder le lien. Donc, nous avons lancé un cycle livre et spiritualité avec une première conférence sur l'étoile blanche. Pierre-Olivier Léchaud sera le deuxième candidat sur son ouvrage sur Mahomet. Et nous avons lancé aussi une autre initiative, un paroissien qui est dans la salle ici, qui s'appelle Jean-Claude, a dit « Mais pourquoi nous ne ferions pas de la cuisine ?» Et le conseil presbytéral a relevé le défi, et notamment Béatrice. Donc vous allez avoir à midi sur notre site internet et sur l'Oratoire du Louvre une émission théologique et culinaire. Ils se sont bien amusés, je crois. Je l'ai regardé en avant-première hier. C'est vraiment très sympa. C'est un agneau pascal revisité par Béatrice. C'est notre paroissien Jean-Claude, donc dit JC. Voilà. Donc vous l'aurez à midi. Et vraiment aussi un grand merci à Meux qui tenait la caméra et à Gérard qui a monté ce film vendredi après-midi. Voilà, nous ne pouvons pas partager l'agneau pascal avec vous. Nous ne pouvons pas malheureusement reprendre nos repas dominicaux. Nous avons inventé avec le conseil presbytéral et l'aide de notre pasteur et d'un de nos paroissiens l'émission théologique et culinaire.
Alors c'est ouvert à tous ceux qui ont des bonnes recettes à nous proposer pour les autres fêtes. Pas de problème, on peut continuer.
C'est le moment de l'offrande, également une initiative de Pâques.
Oui, alors c'est une tradition d'église de faire une offrande spéciale au moment de ce qu'on appelle les fêtes carillonnées. Nous approchons de Pâques et nous vous avons glissé dans les psautiers français une enveloppe pour les personnes qui voudraient faire une offrande particulière dans ce moment de Pâques. Vous avez été déjà très généreux tous pendant ce temps où nous avons eu très peur pour notre Église, il faut le dire, dans le sens où nous voyons bien qu'il y avait des problèmes de fréquentation au culte à cause de la pandémie. Nous avions du mal à nous rejoindre les uns les autres et nous avons fait tout pour que ce soit possible. Et vous avez répondu présent et vous avez soutenu votre Église parce que l'Église, c'est vous. C'est-à-dire que sans les uns et les autres, il n'y a pas d'Église. Et donc si cet effort-là continue pendant toute cette année, nous aurons traversé cette épreuve tous ensemble en nous soutenant les uns les autres et en permettant que l'Église, au sortir de cette pandémie, puisse reprendre ses activités sans avoir de gros problèmes financiers. Donc il faut qu'on continue ensemble à soutenir, à nous soutenir les uns les autres, en fait, puisque c'est notre Église à tous. Donc voilà, vous avez cette enveloppe d'offrandes et bien sûr, certains sont déjà en règlement mensuel, sont déjà donateurs très réguliers. Et donc, quand c'est comme ça, évidemment, si ça ne s'adresse pas à vous, ça ne s'adresse pas à vous. Mais en revanche, pour ceux qui voudraient faire un acte particulier qui a un sens spirituel au moment de Pâques, vous pouvez le faire grâce à cette enveloppe. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, à midi, on se retrouvera par la voix des ondes dans la cuisine de l'oratoire avec Jean-Claude qui nous a proposé sa recette. Merci beaucoup à vous.
Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je voulais aussi rajouter que Béatrice et moi, nous allons accompagner deux familles en deuil la semaine prochaine. Mercredi, ce sera Béatrice au Père Lachaise et moi, ce sera jeudi à 15h, ici même dans ce temple. Et donc, nous prendrons dans notre prière ces familles éprouvées par ce temps de deuil. Prions ensemble. Dieu de la vie, en ce jour de fête, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre temps, de notre argent, de notre travail, de notre réflexion, pour ton service et le service de nos sœurs et de nos frères. Par ta parole, nous avons entendu qu'il a été dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Alors nous t'en prions, donne-nous cet esprit de pauvreté et d'humilité. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous t'en prions, apprends-nous à partager les larmes de nos frères et de nos sœurs lorsqu'ils connaissent le deuil, la maladie, la tristesse et la solitude. Nous te remettons particulièrement ces deux familles que nous accompagnerons la semaine prochaine. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Nous t'en prions, donne-nous un cœur humble et doux, semblable au tien. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors, donne-nous une âme assoiffée de justice et d'amour dans ce monde qui souffre de quelque nom que s'appelle la souffrance. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors nous t'en prions, ouvre nos cœurs à l'amour de notre prochain, que ce soit dans notre Église ou partout ailleurs, là où tu nous donnes de vivre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous t'en prions, illumine notre regard par ta clarté, et débarrasse-le de tout jugement hâtif. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous t'en prions, donne-nous la force d'être des foyers de paix et de joie, d'écoute, d'accueil aux endroits où tu nous as placés, que ce soit en église ou ailleurs, pour être des témoins crédibles de ta parole. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous t'en prions, renouvelle en nous la patience, la persévérance, mais aussi notre confiance. Lorsque d'une façon ou d'une autre, nous luttons, souffrons pour annoncer ta parole. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a donné sa vie par amour. Fais qu'unis à notre Sauveur, nous puissions aimer à notre tour dans cette persévérance et passer aujourd'hui même avec lui de la mort à la vie. Exauce-nous, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Et c'est dans cette confiance renouvelée que nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en proie à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Le Christ nous dit : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je la donne. Alors que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Amis, frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Amen. Je vous souhaite d'ores et déjà un heureux dimanche et merci de laisser vos cantiques à vos places avant de sortir.